Radio Prague, les informations.
José Barroso a présenté à Prague la nouvelle stratégie d'information de la Commission européenne. Avant les prochaines élections législatives, les sociaux-démocrates veulent faire adopter une cinquantaine de projets de loi gouvernementale. Václav Havel a obtenu la plus haute distinction autrichienne. Les regards portés par le président tchèque Václav Klaus et le président de la Commission européenne José Barroso sur l'intégration de l'Union européenne et sur le traité constitutionnel sont différents. Les conversations qu'ils ont eues ce vendredi au château de Prague l'ont de nouveau confirmé. Václav Klaus salue tout de même la nouvelle stratégie d'information de la Commission européenne que Barroso a présentée à Prague. Avec le Premier ministre Jiří Paroubek, le président de la Commission européenne a ouvert au centre de la capitale tchèque un eurocentre. Avant les prochaines élections législatives en juin 2006, les sociaux-démocrates veulent faire adopter 51 projets de loi gouvernementale. Notre ambition est de les imposer coûte que coûte, prioritairement avec le soutien des partis de la coalition ou, le cas échéant, avec le soutien du Parti communiste, a déclaré Bohuslav Sobotka, ministre des Finances. Le président autrichien Heinz Fischer a prêté à Václav Havel la croix d'honneur d'Autriche de la science et de la culture pour son apport à la création artistique. L'ex-président tchèque s'est vu décerner cette plus haute distinction autrichienne d'un main de Fischer au palais de Hofburg en Vienne. Au cours de son voyage en Albanie, le ministre tchèque de la Défense, Karel Kühnl, a promis à ses interlocuteurs albanais le soutien de la Tchéquie lors de leurs négociations d'adhésion sur l'entrée de l'Albanie dans l'OTAN. Un nouveau film de Jan Švankmajer, scénariste, réalisateur et plasticien tchèque, intitulé « Les fous », a été présenté en première jeudi soir à Prague. Il est dédié à sa collaboratrice et épouse Eva Švankmajerova, qui est récemment décédée à l'âge de 65 ans. Pendant ses 10 ans d'existence, le Festival du théâtre de langue allemande, dont la 10e édition s'est terminée pendant ce week-end à Prague, a présenté au total plus de 90 premières. Cette année, le festival a accueilli pour la première fois, outre des troupes d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, un théâtre de Luxembourg. Des températures autour de 0 sont prévues pour ce samedi qui est inscrit dans le calendrier tchèque comme le jour de fête d'Alžběta. Un ciel couvert et des chutes de neige à caractère plutôt local marqueront la météo. C'était le journal préparé par Alena Gabertová.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Le 16e anniversaire de la révolution de Velour et de la chute du communisme a été célébré en République tchèque par des rassemblements et des manifestations. Le 6e arrondissement de Prague change d'aspect. Une importante rétrospective du peintre Lukas Kranach a lieu à Prague. L'équipe tchèque s'est qualifiée pour la Coupe du monde de football. Tels sont les thèmes de cette émission préparée pour vous par l'ensemble de la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Le 17 novembre, jour de fête nationale, les Tchèques ont commémoré le 16e anniversaire de la chute du régime communiste et le 66e anniversaire des répressions sanglantes nazies contre les étudiants. Des actes de piété ainsi que des protestations contre l'influence croissante du Parti communiste ont marqué les célébrations. Yaroslava Gisiblova résume.
Des milliers de gens ont afflué pendant toute la journée dans la rue Narodni pour déposer des fleurs et allumer des bougies devant la plaque commémorant la manifestation étudiantine pacifique du 17 novembre 1989, brutalement réprimée par la police et qui a donné le départ à la chute du régime communiste au pouvoir pendant 41 ans. Pour Václav Havel, un des symboles de la révolution de velours, cette journée est une occasion de repenser les valeurs essentielles.
Ta vlastní historie, její kontinuita je zároveň cestou k naší identitě. My nemůžeme na něco zapomenout.
Notre propre histoire, sa continuité, c'est la voie vers notre identité. On ne peut pas oublier l'histoire si l'on veut trouver son identité. C'est le premier pas qui conduit. Grâce à l'histoire, nous savons qui nous sommes aujourd'hui, qui nous étions hier, ce que nous avons fait de bon et de mauvais.
Tout comme son prédécesseur, le président de la République, Václav Klaus, considère le 17 novembre comme un tournant historique pour le pays.
Le 17 novembre est un moment clé de notre histoire et nous tous qui l'avons vécu, nous savons que c'était la naissance de la liberté, la principale valeur que nous avons aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'ils allaient mieux avant 89 ne savent pas faire la distinction entre leur destin personnel et le système politique qu'ils inculpent de leurs échecs, mais ces gens se trompent terriblement.
Si les applaudissements et les témoignages de sympathie ont accompagné Václav Havel et Václav Klaus, le premier ministre Jiří Paroubek, venu lui aussi déposer des fleurs à la rue Narodní, a eu droit à des sifflets et à des reproches pour être tenté par un rapprochement avec les communistes. L'influence croissante du Parti communiste, qui arrive en troisième position dans les sondages, a été vivement critiquée par près de 3000 personnes, pour la plupart des étudiants, qui ont formé une chaîne devant l'actuel siège du Parti communiste et l'ancien siège de la Gestapo situé, signe du hasard, dans la même rue. Ils ont ainsi voulu dénoncer la liaison entre les deux idéologies contre lesquelles s'étaient d'ailleurs opposées les deux manifestations en 1939 et 1989. Plusieurs participants ont confié à la radio tchèque leur crainte à l'idée de la possibilité d'une union des sociaux-démocrates avec les communistes après les élections législatives de 2006 et d'un nouvel avènement des communistes au pouvoir. Écoutons l'un d'entre eux.
Je suis venu protester parce que je suis anticommuniste. Je ne suis pas d'accord avec ce style et cette idéologie. Puisque j'étudie l'histoire, je sais qu'elle a coûté la vie à des millions d'hommes et je pense que cela ne devrait jamais être oublié. Les communistes ne devraient pas gouverner ou avoir un quelconque pouvoir.
Le 6e arrondissement de Prague change de visage. Dans les années 1920, l'architecte Antonín Engel avait conçu un projet grandiose de construction d'une place qui devait devenir le centre de Prague, Davice, le 6e arrondissement de la capitale tchèque. Les bâtiments devaient être disposés autour de la place afin de former un immense cercle avec au milieu un carrefour et des parterres fleuris. Cependant, le projet n'a été réalisé que partiellement et Vítězné náměstí, la place de la Victoire, est resté inachevé. Il y a quelques années, on a lancé une grande initiative visant à l'achèvement de la place, qui est aujourd'hui en passe de devenir un des plus grands centres administratifs et culturels de la capitale. Sur une superficie de 150 000 mètres carrés, on construit des bâtiments modernes qui abriteront, entre autres, les sièges des rectorats de l'École supérieure de chimie et de technologie et de la Polytechnique de Prague, établissement situé à proximité de la place. D'autres bâtiments seront réservés aux activités commerciales. Il y aura des passages avec de nombreux magasins, restaurants, cafés, centres de fitness et grands parkings. C'est à cet endroit qu'on doit construire également une nouvelle bibliothèque nationale technique et d'autres édifices qui abriteront une partie des bureaux de la mairie du 6e arrondissement. Les fonds de pension du groupe Siemens ont promis d'investir dans cette entreprise quelques 150 millions d'euros. La société n'est pas sans expérience dans ce genre d'activité, car elle a construit des centres commerciaux et administratifs à Paris, à Rotterdam, en Allemagne et aux États-Unis. Évidemment, une telle intervention dans la vie du 6e arrondissement a provoqué des réactions parmi les habitants du quartier et les spécialistes. Nous souhaitons que le quartier vive aussi pendant le week-end, chaque jour et chaque heure, a souligné le maire du 6e arrondissement, Tomáš Chalupa. Le club de la vieille Prague, association de protection des monuments historiques, s'est montré beaucoup plus réservé vis-à-vis de ce projet et les représentants des écoles l'ont carrément critiqué car, à leur avis, il réserve trop de place aux activités commerciales au détriment des espaces scolaires. En outre, ces jours-ci, on a appris qu'un nouvel édifice nommé E-Gate se dresserait à l'endroit où l'avenue Evropská, européenne, débouche sur la place. La venue européenne qui relie la place de la Victoire à l'aéroport de Prague-Rousinet est surnommée avec un peu d'exagération la Silicon Valley parce qu'on y trouve de nombreux sièges de sociétés informatiques. Sur le toit du bâtiment de 7 étages, qui offrira 20 000 mètres carrés d'espace administratif, il y aura un jardin et même un petit terrain de golf. L'ambition de l'architecte Jan Schindler, auteur du projet, est de construire un immeuble représentatif qui serait une espèce de porte s'ouvrant sur la place de la Victoire. Dans quelques années donc, le 6e arrondissement de Prague, à l'instar des quartiers pragois de Smíchov et de Pankrác, changera de visage. La galerie du château de Prague, pour sa dernière grande exposition de l'année, abrite jusqu'au 8 janvier les œuvres d'un peintre allemand exceptionnel, décédé à l'âge de 81 ans, un âge plus que vénérable pour l'époque, Lucas Cranach l'Ancien, 1472-1553, a laissé une œuvre importante qui est contre toute attente liée à l'histoire des pays tchèques. Anna Kubišta s'est entretenue avec Calliope Ramonicola, conservatrice de l'exposition.
L'œuvre de Lucas Cranach est essentiellement liée à la région de Saxe, à Wittenberg, en Allemagne. Et c'est à partir de ce point névralgique que l'on peut retracer son empreinte en Bohême, car outre leur proximité géographique, les deux régions entretenaient des liens politiques et culturels. Outre les œuvres de Cranach qui ont été rapportées dans les pays tchèques, les commandes de mécènes, mais aussi les travaux de copistes par exemple, l'influence du grand maître qui ne travaillait pas seul, mais dirigeait un atelier, s'est aussi propagée grâce à des successeurs en Bohême. Calliope Chamonicola nous en dit plus.
Ce sont aussi des œuvres peintes par des artistes apparemment locaux qui avaient fait leur apprentissage dans l'atelier de Cranach, ce qui est le cas du peintre au monogramme IW, le maître le plus important dont nous présentons les œuvres à l'exposition, qui est si proche du travail de Cranach. Qu'il s'agisse de la technologie ou de la méthode de peinture, il est clair qu'il a fait son apprentissage auprès de Cranach avant de revenir et d'exercer son art dans les environs de Louny et de Litoměřice. Puis on trouve les peintres locaux qui ont été influencés par les créations de Cranach et qui ont repris son style. Il s'agit surtout de la région du nord-ouest de la Bohême qui a été influencée dans la figuration des personnages notamment. La manière dont il peignait les visages avec ses yeux de chat, un type physionomie classique chez Cranach, immédiatement reconnaissable.
Il peut paraître paradoxal que Cranach soit désigné comme le peintre de la Réforme, lorsque l'on sait que les protestants avaient la réputation d'être iconoclastes. Explication avec Calliope Chamonicola.
Cranach byl přítelem Lutherovým, takže v podstatě se dá říct,
Cranach était l'ami de Luther. On peut dire que Luther a trouvé en lui le meilleur propagandiste capable de visualiser ses réflexions théologiques. Les protestants radicaux peuvent être considérés comme iconoclastes car ils mettaient l'accent sur le verbe. Cranach est un de ces peintres qui a en fait créé un tout nouveau type de tableau qui a adapté les styles de représentation antérieure à la conception luthérienne de la foi.
La loi et le pardon, Jésus et la femme adultère, Cranach décline le thème luthérien du rachat par la foi à travers des tableaux moralisateurs et didactiques. Mais les représentations hagiographiques ne manquent pas pour autant, avec une étonnante abondance de Sainte Catherine et de Sainte Barbe chez lui et chez son successeur de Bohême.
Sainte Catherine et Sainte Barbe sont certes deux des quatre saintes martyres les plus importantes, mais dans le contexte tchèque, c'est vrai que Sainte Barbe apparaît souvent comme la patronne des mineurs, ce qui est certainement lié au nord-ouest de la Bohême où se trouvaient des mines. Son culte y était très important et le fait que nous ayons conservé tant de représentations de cette sainte ne doit pas y être étranger. Même dans le cas des fiançailles mystiques de Sainte Catherine, un thème qui apparaît chez nous très souvent, un thème très en vogue à l'époque, mais qui existe dans de multiples variantes. On peut supposer ici que le motif de l'anneau que le Christ passe au doigt de Sainte Catherine est sans doute lié aux mines d'argent de cette région de Bohême. Il y a sans conteste des éléments iconographiques singuliers qui ont conditionné le choix de thèmes abordés dans nos régions.
La République tchèque s'est qualifiée pour la Coupe du monde de football 2006 en Allemagne en battant la Norvège 1-0 mercredi à Prague en match retour de barrage, confirmant ainsi sa victoire acquise sur le même score 4 jours plus tôt à Oslo. Après 3 échecs consécutifs, tous plus douloureux les uns que les autres, la République tchèque indépendante participera donc à la phase finale pour la première fois depuis la partition avec la Slovaquie en 1993. Que du bonheur pour une génération dorée de joueurs qui, à l'image de leur leader retrouvé, Pavel Nedvěd, n'entendent pas faire de la figuration en juin prochain. Guillaume Narguet était présent dans les tribunes du stade Letná.
Un but de Tomáš Rosický d'une reprise foudroyante en demi-volée peu après la demi-heure de jeu et 3 parades de grande classe d'un Petr Čech impeccable ont suffi au partenaire de Pavel Nedvěd, qui avait retrouvé son brassard de capitaine pour l'occasion, pour empocher une victoire sur le plus petit des écarts contre un adversaire scandinave solide et coriace jusqu'au bout, mais sans imagination dans la construction. Mais pour une fois, peu importe la manière, car 16 ans après le quart de finale perdu par la Tchécoslovaquie contre la RFA à Milan en 1990, les Tchèques vont enfin de nouveau participer à une phase finale de Coupe du Monde. Et cette perspective ô combien excitante suffit aujourd'hui amplement à la joie de tout un pays. Toutefois, avant de savourer jusque tard dans la nuit, les joueurs de Karel Bruckner et leurs supporters ont souffert. Il était d'ailleurs sans doute écrit que cette qualification se devait d'être acquise dans la douleur. Les laborieux matchs de qualification qui avaient précédé ce barrage, la nature de l'adversaire ou encore le retour médiatisé de Pavel Nedvěd, tout le laissait penser. Mais les Tchèques, auteurs de 2 matchs parfaitement maîtrisés tactiquement et supérieurs techniquement aux Norvégiens, ont justifié leur étiquette de favoris et prouvé une fois de plus que leur 3e place au classement de la FIFA n'avait rien d'usurpé. Impérial dans son but et grand artisan du succès, Petr Čech estimait que de ne pas avoir encaissé de but avait été décisif.
Tak bylo to velice těžké, bylo to velice důležité v tom zápase, protože jsme nesměli dostat gola, věděli jsme o tom a samozřejmě oni měli.
Ça a été très difficile, mais c'était très important dans ce match. Nous savions qu'il ne fallait pas encaisser. En première mi-temps, ils ont notamment eu une occasion très dangereuse avec un peu de réussite, puisque leur tir a été dévié 2 fois, d'abord par Vladimir Schmitzer, puis par David Rosernal. Pour moi, ce n'était donc pas évident d'intervenir, mais je suis bien entendu content d'avoir fait mon travail et d'avoir aidé l'équipe. Quant à Tomáš Rosický, l'autre héros de la rencontre pour avoir libéré ses partenaires, il retenait avant tout la vague d'émotion qui a envahi le stade au coup de sifflet final. C'est certainement le but le plus important de ma carrière car il a décidé du sort de la rencontre. C'est beau. Sinon j'ai joué sous infiltration et il a fallu que l'entraîneur me remplace en seconde mi-temps. Je ne pouvais plus continuer, la douleur était trop forte. Je ne sais pas si cette qualification est le sommet de ma carrière. Ce qui est certain, c'est que la participation à la Coupe du Monde est un événement pour le football tchèque et que c'est quelque chose d'inoubliable d'y parvenir devant son public. Je pense que nous n'avons pas fait plaisir qu'à nous-mêmes, mais aussi à beaucoup de monde dans ce pays.
C'était Faits et événements en République tchèque, une émission préparée par l'ensemble de la rédaction française de Radio Prague et présentée par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi.
Économie, commerce.
Actrice incontournable de l'actualité tchèque, la monnaie unique est revenue ces derniers jours sur le devant de la scène médiatique. Plus que jamais, l'heure est au bilan, et plus que jamais, la République tchèque semble prête pour le grand saut. Au Parlement ou au café, l'euro est amené à alimenter les débats dans les prochaines années en République tchèque. Voilà un fait avéré. Et aujourd'hui, on ne parle plus seulement de quand, mais aussi de comment. Selon les dernières prévisions, le passage à la monnaie unique devrait s'effectuer d'un seul coup en République tchèque. Il n'y aurait pas, comme en France par exemple, de période de transition avec usage simultané de la monnaie nationale et de la monnaie unique. Mais comme ailleurs en Europe, environ un an avant l'adoption, le pays devrait voir les prix affichés en couronne et en euros, histoire de familiariser les consommateurs avec la nouvelle monnaie, mais aussi d'éviter toute augmentation arbitraire par les commerçants lors du passage à l'euro. Concernant le taux de change, il devrait être de l'ordre de 25 couronnes pour 1 euro. Nous avons évoqué dans une émission récente les divergences entre le gouvernement et certains économistes sur la pertinence du passage rapide à la monnaie unique. Dans la plupart des pays européens, cette guerre des pics entre la banque centrale, partisan de la rigueur budgétaire, et le gouvernement est une donnée traditionnelle et elle ne concerne pas que la République tchèque. La Hongrie n'échappe pas à la règle et on y observe les mêmes lignes de tension. Pour l'heure, la République tchèque fait figure de bon élève. Le déficit financier de l'État est en baisse constante et le pays devrait pouvoir entrer dans la zone euro sans passer par des coupures douloureuses dans les dépenses publiques. C'est ce qu'a démontré le programme actuel de convergence sur lequel le gouvernement débattra la semaine prochaine, a indiqué l'agence Reuters. D'après les estimations officielles, le pays devrait voir le déficit public passer d'ici 2008 en dessous de la barre des 3% du PIB, limite maximum autorisée par le pacte de stabilité. Les prévisions pour 2006 sont de 3,8%. Au vu de l'excédent budgétaire, le gouvernement avait même émis l'hypothèse fin octobre que la frontière des 3% serait franchie dès cette année. Les résultats sont parlants et la République tchèque devrait remplir les critères de convergence dans un délai relativement rapide. Le débat n'en reste pas moins vif et de nombreux économistes craignent un ralentissement de la croissance ainsi que des réductions dans les dépenses publiques. Interviewé par le quotidien Dnes, l'économiste Pavel Sobicek souligne que le succès de l'État au niveau budgétaire doit beaucoup à la croissance rapide de l'économie tchèque qui se rapproche des 5% du PIB. En effet, les gains élevés des entreprises se répercutent également sur les rentrées financières dans les caisses de l'État, par les taxes par exemple. D'autres voix mettent en avant la défense de la sphère sociale, qui serait la première visée en cas de resserrement budgétaire. Une thèse que partage le nouveau gouvernement polonais, conservateur, et qui n'est pas sans inquiéter la Commission européenne. À peine nommée, la ministre des Finances Teresa Lubinska a indiqué samedi dans un entretien au quotidien britannique Financial Times que l'euro n'est pas la priorité du gouvernement de Kazimierz Marcinkiewicz. Pour elle, la croissance est plus importante, quitte à voir grandir le déficit budgétaire. Varsovie refuse ainsi pour l'instant de fixer une date pour l'adoption. Entre croissance et euro, y a-t-il vraiment incompatibilité? Les prévisions récentes de la Commission européenne ne vont pas dans ce sens. Baisse relative du chômage, tassement de l'inflation, la zone euro devrait connaître dans les prochaines années une reprise sensible de la croissance économique. La Commission européenne considère que les investissements devraient progresser de plus de 3% en 2006 et 2007 au sein des 25. Par ailleurs, la demande intérieure devrait se renforcer. La reprise devrait ainsi voir se créer 6 millions d'emplois d'ici à 2007 au sein des 25, dont les trois quarts dans la zone euro. Le gouvernement tchèque, pour sa part, ne compte pas adopter une politique d'austérité en vue de la monnaie unique et il souhaite éviter toute coupure conséquente dans le budget de l'État. Il mise pour cela sur une stratégie subtile, l'endettement de l'État. Avec un niveau de 37,4% en 2005, l'État dispose en effet d'une marge d'action importante pour rester dans la limite imposée par le traité de Maastricht, soit une dette publique de 60% du PIB. Notons que la dette pure de l'État, qui ne prend pas en compte celle des institutions publiques, se situe autour de 5%. Les chiffres du déficit public tchèque pourraient bien faire pâlir d'envie certains pays déjà membres de la zone euro, dont la France, qui devrait faire partie l'année prochaine des rares pays de l'Union européenne où le déficit excessif s'aggrave. Tandis que le ministre français de l'économie et des finances, Thierry Breton, table sur un déficit de 3% du produit intérieur brut en 2005, puis 2,9% en 2006, les économistes bruxellois tablent sur un dérapage plus conséquent, 3,2% en 2005, puis 3,5% en 2006. Le rappel à l'ordre de la Commission se veut d'autant plus ferme que la conjoncture s'améliore dans l'UE. Elle prend aussi en compte le fait que les trois autres mauvais élèves budgétaires de la zone, l'Italie, la Grèce et le Portugal, devraient connaître une nette amélioration en 2006. On le voit, le débat sur l'euro, à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone, est loin d'être clos.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North